tous et à toutes.
Bonsoir Christine.
Bonsoir Christine.
Bonsoir Isabelle, bonsoir Paul. Bienvenue à notre émission Dialogue. Première émission de la saison, proposée par un collectif d'enseignants de bibliothécaires, donc enseignants en philosophie, Isabelle Raviolo, qui a l'habitude de présenter Philosophie au présent. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Christine. Philosophie au présent, l'émission du Collège international de philosophie avec Nathalie Perrin.
Et Paul Roussy, qui est enseignant en littérature et poète à Bordeaux.
Bonsoir Christine.
Manque ce soir Michel Dias, dont nous écouterons la parole tout à l'heure. Parole poétique, puisque Michel est bibliothécaire à Bibliothèque nationale de France. Il est poète lui-même, non publié, et il traduit de la poésie portugaise en particulier. Et moi-même, donc, je suis Christine Bessy et je suis enseignante en philosophie à Oloron-Sainte-Marie, patrie de Jules Supervielle, dans les Pyrénées-Atlantiques. Et je cède la parole à Paul, qui va ce soir animer cette émission et vous présenter notre invité magnifique de ce soir, Francis Combes.
Bonsoir à tous et à toutes. Tout d'abord, nous allons finir de nous présenter l'émission Dialogue, dont c'est la première aujourd'hui, en vous proposant, puisque nous invitons Francis Combes sur le thème de l'engagement, en vous proposant nous-mêmes de nous engager à dialoguer tout au long de ces émissions, avec notre intention commune. Si Christine, tu veux commencer.
Oui, donc je vais lire finalement la présentation du sens de cette émission, du projet de cette émission, qui est de faire dialoguer la poésie et la philosophie, et donc toute la création poétique, mais aussi conceptuelle, politique. Donc Dialogue est une émission qui est consacrée aux échanges pluriels, aux échanges à plusieurs voix, qui viennent de différents champs et pratiques de la pensée, que ce soit la philosophie, la littérature, l'histoire, la musique, mais bien sûr et surtout la poésie. Et c'est le sens aussi de cet engagement de ce soir d'inviter Francis Combes. Et dans un deuxième temps, des échanges entre différents lieux, puisqu'à cette table viennent effectivement des enseignants de tous les territoires de France, alors plus particulièrement le Sud-Ouest, vous l'avez noté, pour des questions simples d'amitié. Et donc, ce sont des échanges entre différents lieux, places et territoires, géographiques autant que de pensée, où se nouent et se sont tissés ces dialogues, souvent depuis très longtemps.
Merci Christine. Donc, Francis Combes, ce soir, tu es avec nous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir à vous trois.
Bonsoir Francis.
Et à ceux qui nous écoutent aussi. Nous sommes écoutés.
Nous sommes très heureux de t'accueillir. On aurait espéré la présence avec toi de Patricia Latour, oui, qui n'a pas pu se joindre à nous.
Non, pour des raisons de santé malheureusement, elle ne se sentait pas en état de venir à ce rendez-vous. Peut-être aurons-nous d'autres occasions. Aura-t-il d'autres occasions, je le souhaite.
Avec plaisir. Sur le thème de l'engagement, vous avez écrit tous les deux une chronique dans l'Humanité en 2019, où vous rappeliez aussi qu'être engagé, c'est aussi être souverain, sous le patronage de
Roger Vaillant,
et qui lui-même a fait l'expérience d'un couple souverain avec sa compagne Elisabeth Naldi.
Oui. Roger Vaillant est sans doute l'un des rares écrivains communistes, qui sont passés par le communisme, il y en a beaucoup qui sont passés par le communisme au cours du XXe siècle. Il est l'un des rares qui ait pensé simultanément la nécessité de l'engagement collectif dans l'action pratique, politique, avec ce que ça suppose de sens de la discipline, et en même temps l'impératif contradictoire et tout à fait important du dégagement, d'une certaine façon, hein, de la souveraineté individuelle. Donc la liberté et l'engagement comme une contradiction joyeusement assumée. Parfois difficilement assumée, mais assumée. Il l'a fait. Et je pense que Roger Vaillant est d'ailleurs l'un des rares moralistes, en même temps un moraliste par certains côtés, de cette tradition-là. Il a écrit au sortir de la, pendant la Résistance, un petit livre que j'avais publié, qui n'est pas un livre bien connu de lui, qui s'intitule Maramara. Ce sont des notes qu'il prenait pendant la Résistance, où il avait ce pseudonyme de Marat. Et ce sont des notes tout à fait éclairantes sur cette question de l'engagement et de la liberté. La souveraineté étant pour lui le synonyme de la liberté, finalement. Être maître de soi, de son destin, c'est un idéal de maîtrise qui lui venait du XVIIIe siècle, hein, et des libertins du XVIIIe siècle.
Il écrivait en effet à Elisabeth Naldi qu'il s'agissait d'être à la place juste dans la bagarre du temps. Est-ce que toi, en tant qu'éditeur, poète, président du salon de l'autre livre aujourd'hui, qui en ce moment qui est à Paris au Blanc-Manteau, oui. Est-ce que dans toutes
jusqu'à
ces dimensions...
Jusqu'à demain soir, en effet.
Jusqu'à demain soir. Est-ce que dans toutes ces dimensions, tu résonnes avec cette juste place dans les bagarres du temps?
Je ne sais pas si je résonne avec justesse sur ma place dans ces bagarres. On n'est pas maître des circonstances dans lesquelles nous vivons. Hein. Ça me fait penser à la vieille querelle de la poésie de circonstances qui a fait couler beaucoup d'encre et qui date de la fin du XIXe siècle quand Théophile Gautier, par exemple, et d'autres se revendiquaient d'une poésie pure en opposition à Victor Hugo qui s'était vraiment mêlé des combats du siècle. Et c'est un débat qui ressurgit régulièrement chez les poètes, qui a ressurgi par exemple à l'époque de la Résistance. Certains ont reproché à Aragon, Éluard, René Char et à d'autres, Pierre-Emmanuel par exemple, de s'être engagé dans la Résistance. Je pense au pamphlet qu'avait écrit Benjamin Perret qui s'intitulait « Le déshonneur des poètes » pour répondre à l'honneur des poètes qui était l'anthologie que Paul Éluard avait écrite, avait composée pendant la Résistance. Il reprochait aux poètes communistes et catholiques qui s'étaient retrouvés côte à côte dans les combats de la Résistance d'avoir mis la poésie au service d'une cause, fût-elle honorable et juste, qui était la cause de la liberté et de la lutte contre le nazisme. Parce que pour lui, pour reprendre les termes de Benjamin Perret, la poésie était source immaculée de tout savoir. Vision, je trouve, très éthérée de la poésie. Et ça me fait penser à ce que me disait un autre poète de la Résistance, Jean Marcenac, dont nous parlions tout à l'heure au bistrot, parce que nous avons parlé un peu au bistrot pour dire la vérité. Et Jean Marcenac disait, c'est pas la poésie de circonstances que l'on pratique, que l'on pratiquait comme poète de la Résistance, c'était la poésie contre les circonstances. C'est-à-dire une poésie capable de se dresser contre les circonstances. Je trouve que c'est une belle leçon. En tout cas, j'essaie d'être fidèle à cette leçon. Dans des circonstances qui ont changé, bien sûr.
Et selon cette fidélité de poésie contre les circonstances, tu es engagé aussi comme coordinateur européen du Mouvement mondial des poètes, et à ce titre, engagé aussi pour la défense de poètes aujourd'hui emprisonnés, comme le plus récent Achraf Fayad.
En fait, on a mené cette action pour Achraf Fayad depuis 2015-2016, d'un poète palestinien qui vivait en Arabie Saoudite, qui vit en Arabie Saoudite, et qui avait été condamné d'abord à mort pour apostasie. On lui reprochait de ne pas être un bon musulman, d'avoir abjuré sa religion. Et après la campagne que nous avons menée, une campagne internationale, sa peine a été commuée en 8 ans de prison et 800 coups de fouet. Je pense qu'à certains jours, il ne devait pas nous bénir, hein, parce qu'il a enduré cette torture pendant 8 ans. Régulièrement, il était sorti de sa cellule pour recevoir un certain nombre de coups de fouet. Il a finalement été libéré, avec retard, parce qu'il aurait dû être libéré en novembre dernier. Il a fallu qu'on relance cette campagne pour que notamment la présidence de la République française intervienne auprès de nos chers amis d'Arabie Saoudite, qui sont des grands clients pour notre industrie d'armement, hein, ouais, pour leur rappeler qu'il y avait un poète en prison. Et c'est un poète, quand on lit ses poèmes, qui sont très beaux, qui ont été traduits en français par Abdelatif Lahabi, poète marocain qui lui-même a connu la prison à l'époque d'Hassan II. Qu'est-ce que dit ce poète, ce jeune poète palestinien? Ben, il dit une chose toute simple. Il dit, dans nos pays, le seul vrai Dieu, c'est le pétrole. C'est lui qu'on adore. C'est lui qu'on prie. C'est lui qui coule dans nos veines. Et ça, les émirs du pétrole ne l'ont pas supporté. Parce que c'était un crime de lèse-majesté, en quelque sorte. Mais souvent, d'ailleurs, les vrais blasphèmes sont les blasphèmes à l'égard du pouvoir. Hein.
Le pouvoir ici est représenté par Mohamed Ben Salman, effet. Et dans un de tes poèmes de ton blog Poésie d'utilité publique, tu termines justement un poème pour Achraf Fayad par « Ce qui coule dans nos veines, ce n'est pas le pétrole, mais le sang de l'humaine fraternité.
Ouais. » Exact. Mais c'est une vieille histoire, hein. Que les poètes soient mis au pilori parce qu'ils s'en sont pris au pouvoir. Il y a un poète français dont on parle peu, qu'on a oublié en vérité dans l'histoire littéraire, qui s'appelait Claude Le Petit, qui a été brûlé en place de Grève. On lui avait reproché d'avoir écrit des poèmes licencieux et qui s'en prenait, paraît-il, à la religion. Mais en vérité, quand on lit ces sonnets, qui étaient effectivement licencieux, il s'en prenait au pouvoir du jeune Louis XIV. Il a été brûlé en place de Grève, hein. Et c'est un très bon poète, oublié dans l'histoire littéraire. Bon, donc on a aussi fait des choses comme ça.
Sur le thème de l'engagement, tu as eu l'occasion aussi de te tourner vers l'Amérique latine à travers une amitié aussi avec Sergio Ortega, autour de la révolution chilienne. Et...
Sergio Ortega est le musicien chilien qui a écrit El Pueblo Unido, qui a écrit Venceremos, qui était l'hymne des syndicats, du mouvement ouvrier chilien.
On peut peut-être l'écouter.
On peut l'écouter, j'en dirai un mot après.
El Pueblo Unido jamás será vencido. El Pueblo Unido jamás será vencido. El Pueblo Unido jamás será vencido. De pie cantar.
nous venons d'entendre en effet El Pueblo Nido, écrit par Sergio Ortega. Sergio est un ami très proche pendant de nombreuses années, d'un musicien chilien qui a été très engagé à l'époque de l'unité populaire, à l'époque du Chili d'Allende, et qui a dû quitter le Chili après le coup d'État de Pinochet. Je l'ai connu quand il était directeur du Conservatoire municipal de musique de Pantin. On a travaillé ensemble, on a écrit des opéras, des chansons. Il avait travaillé au Chili avec Pablo Neruda. Il avait écrit des hymnes révolutionnaires comme El Pueblo Unido, que l'on a encore entendu retentir dans les rues de Santiago du Chili récemment, à la faveur des manifestations populaires. C'est un hymne qui n'est pas mort, qui a ressurgi de l'ombre de l'histoire. Mais c'est aussi un compositeur de musique, disons, savante. Et il m'avait beaucoup parlé justement de cette leçon artistique qu'il avait tirée de sa collaboration avec Pablo Neruda. Il avait écrit notamment la musique du seul opéra de Pablo Neruda qui s'appelle « Vie et mort » de Joaquín Murrieta. Cette idée finalement profonde et simple que pour quand on veut s'adresser au peuple, il faut le meilleur. Il faut la plus grande musique, la plus belle musique. Il faut la plus belle poésie. Et c'est pas en rabaissant le niveau que l'on peut faire produire un art capable de mettre en mouvement les gens, capable d'être en écho, en sympathie avec le mouvement de l'histoire. Et donc il avait cette dimension à la fois populaire et savante. Et je trouve que c'est... lui-même avait été très influencé par le musicien allemand Eisler qui a travaillé avec Brecht, et on a entendu quelques notes de Brecht.
On va en effet les entendre, ces notes de Brecht, mais avant de les entendre, ces notes d'Hans Eisler, qui a aussi fait la musique de Nuit et brouillard, eh bien, moi, je vais avoir des questions peut-être un peu plus intimes à vous poser sur votre rencontre avec la poésie dans votre plus jeune âge. On va quitter l'engagement collectif et effectivement cette belle idée de ce qu'il y a de meilleur à donner à l'homme et à l'enfant en particulier. Et je suis attentive là à ce que j'ai sous les yeux et que vous nous avez apporté très diligemment et généreusement une publication pour les enfants. Je crois que c'est la première fois, n'est-ce pas, que vous vous adressez aux enfants. C'est d'habitude Patricia, votre épouse, qui s'adresse aux enfants.
Elle a publié plusieurs livres pour les enfants qui ont d'ailleurs eu beaucoup de succès, dont une anthologie, un florilège de poèmes pour les enfants. Et là, je suis fier parce que c'est la première fois qu'un de mes poèmes pour les enfants est publié sous forme d'album par une belle maison d'édition qui s'appelle Rue du Monde.
Exactement, et vous, oui, c'est un très beau livre qui...
Le titre est « Comment faire la paix ?»
Oui. Qui propose donc votre poème « Comment faire la paix ?» sur une magnifique couverture jaune avec un char d'où sort un superbe arbre avec des colombes, qui est illustré par Bruno Heitz. Et je vous propose de lire ce poème qui est traduit dans ce petit livre pour enfants magnifiquement illustré, traduit donc en 24 langues. Comment faire la paix? Pour faire la paix, ramasse un petit tank. Quand il est encore assoupi dans la cour de sa caserne, pose-le sur tes genoux et caresse-le jusqu'à ce qu'il se rendorme vraiment. À ce moment-là, attrape son canon et tord-lui le nez comme du chewing-gum, de la pâte à modeler, pour lui faire un double nœud. Puis va le poser sur la place du village pour en faire non pas un monument aux morts, mais un monument aux vivants. Reproduis l'opération aussi souvent que tu pourras. Alors Francis, s'il te plaît, explique-moi quand tu as commencé à lire de la poésie, entendre la poésie et en écrire un petit peu.
Tout petit, je suis né en Lozère. J'ai passé ma prime enfance dans un village des Cévennes. Mes parents étaient instituteurs, c'était des instituteurs rouges, comme on disait à l'époque, dans un village qui était partagé entre catholiques et protestants. Et ma mère enseignait dans une classe comme il y en avait à la campagne, qui allait de l'école maternelle au cours élémentaire. Elle avait un cahier de récitation. Et avant même d'apprendre à lire et à écrire, je m'intéressais à son cahier de récitation. Je recopiais les poésies. Et c'est comme ça que je suis devenu poète, parce que quand une poésie me plaisait, j'en ai un peu honte, mais enfin, il faut bien dire la vérité, je signais Francis Combes. J'ai donc commencé dans la carrière par un acte de piraterie. Un acte de... Mais finalement, en y réfléchissant après coup, je pense que c'était légitime, parce que c'est en s'appropriant la parole des poètes, c'est en découvrant des poèmes que l'on aime, en les faisant siens, qu'on peut devenir un peu poète. C'est en faisant le singe qu'on devient un homme, mais c'est effectivement en copiant les adultes, en essayant de grandir, que l'on grandit. Hein. Bon, les poètes, disait Pierre Reverdy, naissent dans les livres et ils grandissent dans la vie. Et pour moi, ça s'est passé exactement comme ça. J'ai commencé par découvrir des poèmes écrits par les autres, et puis petit à petit, j'ai écrit les miens. Et je crois qu'on devient vraiment poète quand on commence à pouvoir écrire à propos de sa vie, de son expérience. On trouve tout naturellement ces mots sans avoir besoin de chercher l'originalité. Je pense que la quête de l'originalité est l'un des plus grands dangers qui peut guetter un jeune poète.
Dans ton recueil Cévennes, justement, ton recueil de poèmes, tu ne t'interdis pas de la parole libre, finalement, qui est un peu à l'origine de... Tu te définis comme celui qui... comme le ruisseau qui saute les barrages. Mmh. Ou encore, je cite, comme une fronde affrontée qui chantonne. Mmh. Et tu rappelles qu'on dit que si la pierre est envoyée très haut, elle peut ne plus tomber, se changer en oiseau.
Sentiment poétique, je pense que tout le monde peut le ressentir, l'éprouver. Ça n'est pas réservé aux poètes. La poésie n'est pas la propriété privée des poètes. Et tout le monde est un peu poète au fond de lui. Tout le monde peut ressentir des moments d'exaltation, des moments d'enthousiasme. Pour les anciens Grecs, l'enthousiasme qui était... la caractéristique même des poètes, ça voulait dire on a un dieu en soi. Moi, je suis un croyant, athée absolument. L'idée de Dieu ne m'a jamais effleuré. Mais quand tu es en état de poésie, comme disait le poète haïtien René de Pestre, tu sens qu'il y a quelque chose en toi qui a envie de déborder. Quelque chose, un enthousiasme que tu as envie de faire partager. Un amour, tout simplement. Louise Labbé, notre grande poétesse du XVIe siècle, disait « Pour être poète, il faut être amoureux ». Je crois qu'elle avait raison. Être amoureux d'un homme, d'une femme, être amoureux de la vie, être amoureux du printemps. Pour moi, la poésie, c'est une sorte de propagande pour le printemps. Voilà. C'est un état printanier.
Cette propagande pour le printemps accessible à tout le monde, tu l'as traduite aussi dans cette œuvre de la poésie dans le métro.
Alors, j'étais pas tout seul. J'ai mené cette campagne avec un poète qui a été mon complice pendant 15 ans, Gérard Cartier, qui est un poète tout à fait reconnu, un poète savant, une grande qualité. Et un jour, à la terrasse d'un café Place d'Italie, lui revenait d'Angleterre où il travaillait comme ingénieur du tunnel sous la Manche. Et il me dit, à Londres, les poètes anglais affichent des poèmes dans le métro. Alors bras dessous, on a été voir la direction de la RATP parce qu'on s'est dit... il n'y a pas de raison que les Français soient plus réticents à la poésie que les Anglais. Et on a proposé notre idée. On nous a écoutés, d'abord un peu intrigués, puis finalement ils ont accepté de faire une expérience qui devait durer 3 semaines, je crois. Et devant les réactions des usagers du métro, ça a duré plus de 15 ans, parce que ça a été plébiscité par les gens qui prennent le métro. On a affiché des poèmes contemporains, des poèmes anciens, des poèmes français, des poèmes étrangers. Et on a fait, je crois, la démonstration que le goût pour la poésie dans cette société qui est dominée par l'argent, par l'efficacité, par les grandes abstractions de l'économie, eh bien, ce besoin d'une parole sensible et partageable, qu'est la poésie, c'est un besoin qui est profondément vivant encore. Mais un peu comme une eau qui courrait sous la banquise. Il faut casser la glace de la société, briser la glace en quelque sorte, pour que jaillisse le geyser du besoin de poésie. C'est ce que, je crois modestement, nous avons un peu fait dans le métro. En tout cas, ça a révélé que ce besoin existait. Et ça continue d'ailleurs aujourd'hui. Ce n'est plus nous qui nous en occupons, c'est les gens, les amis du printemps des poètes, mais les poèmes continuent dans le métro parisien.
Oui, moi je pense que Isabelle, tu vois, a bien des choses à dire, mais je suis très à l'écoute de votre idée d'une poésie qui circule, voilà, comme une rivière, hein, vraiment souterraine. Hein. Et j'entends une fable qui vous habite d'un monde très très souterrain qui rêve un peu un monde oui un peu utopique qui fait beaucoup de bien et qui s'ancre alors bien sûr dans votre amitié avec certains poètes. Alors vous avez dit que c'était très ancré dans votre enfance et votre rapport aux parents, à l'apprentissage de l'écriture et de la lecture, à certains poètes en particulier. Alors vous nous les avez partagés au Troquet, donc maintenant nous savons avec Paul.
Je ne vous ai pas tout dit. Hein.
Non, bien sûr, mais quand même, on sait que Villon a compté pour vous, enfant.
Toujours,
on sait que Aragon, non, c'était
Aragon,
pas le premier.
Aragon, je l'ai connu à la fin de sa vie. J'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois. J'étais étudiant à l'époque, je m'occupais des étudiants communistes et j'avais voulu le rencontrer pour l'interviewer. Il m'avait accordé un rendez-vous chez lui. Et il m'avait parlé pendant 3 heures d'affilée pour m'expliquer que finalement il n'avait pas le temps de m'accorder un entretien, une interview. Mais ce qu'il nous avait dit ce jour-là était absolument merveilleux. C'est le seul homme que j'ai rencontré à qui on puisse vraiment appliquer l'expression « parler comme un livre ». Quand vous l'écoutiez, vous aviez l'impression de voir les pages d'un livre défiler. Et il passait avec une égale aisance des registres de langage les plus soutenus aux registres les plus familiers. Et dans ce long monologue, parce qu'on n'a pas placé une, et on n'avait d'ailleurs absolument pas envie d'en placer une, parce qu'on était sous le charme de sa parole, en vérité, on était deux jeunes gens rencontrés, eh bien, on s'est rendu compte après coup que, sous les allures d'un discours très vagabond, il nous avait raconté une histoire sur le long cheminement de l'idée de liberté, dans l'histoire de la poésie, mais aussi dans l'histoire du communisme français. Et qu'en fait, il nous avait délivré un message qui était assez précis. Et c'était très très beau. Cet homme, à la fin de sa vie, était devenu poésie. Il avait toujours été, sans doute, mais il était complètement habité par la parole poétique, comme Eugène Guilvic, dont je parlais tout à l'heure, qui était absolument habité par la parole poétique. Une grande simplicité, une grande vérité humaine.
Oui, vous disiez tout à l'heure Eugène Guilvic, qui n'est pas un poète de la matière, mais un poète de la mélodie, un poète mélodieux.
Alors, a priori, ça n'est pas comme ça qu'il se présente. Il se présente plutôt sous les allures d'un roc de granit, d'un menhir breton. Et il a même refusé le chant en poésie dans un premier temps. Mais quand même, sa poésie chante. Il y a chez lui du chant au sens où le chant, c'est ce qui nous élève. Alors, ce n'est pas une élévation chez lui qui vient d'une fuite hors de la réalité, mais au contraire, d'une volonté de prise du réel. Avec Francis Ponge, il a fait partie de cette génération qui vient après les surréalistes et qui a voulu, un peu à la manière d'Anté, le héros antique, reprendre pied sur terre pour... que la poésie délaisse le territoire de l'inconscient, le territoire de l'imaginaire et des rêves, et reprenne contact avec le monde réel. Et la poésie a retrouvé une sorte de vigueur nouvelle dans cette démarche qu'on a appelée matérialiste, qui est parfois un terme mal compris, En tout cas, c'est un très grand poète. Et dans cette poésie que l'on a dit matérialiste, il y avait le sens de l'utopie. Je reprends ce terme que vous avez utilisé tout à l'heure parce que je n'ai pas réagi sur le coup. Mais je crois qu'en effet, il n'y a pas de poésie sans utopie.
Il y a ce poème de cette figure de l'herbe,
oui,
chez Guilvic. Bah,
Guilvic avait par exemple un tout petit poème, en effet, dans lequel il dit « Dans le brin d'herbe, il y a de l'utopie hein, ». C'est-à-dire cette capacité à se redresser. Vous pouvez piétiner l'herbe mille fois. Il y a un vieux poète chinois, Tufu, qui disait ça. L'herbe peut être mille fois piétinée sous le pas des chevaux. Elle finit par envahir les palais. Elle surmonte les tombes des généraux, etc. L'herbe survit, finalement. Et il y a dans la poésie cette utopie de la vie, tout simplement. Le vieux mythe d'Orphée, qui est le saint patron des poètes, si je puis dire, c'est Orphée qui descend aux enfers pour essayer de sauver son amour, Eurydice. C'est une entreprise toujours vaine, mais c'est toujours l'entreprise des poètes d'essayer de sauver la vie de la roue de l'éphémère, du temps qui passe, d'essayer de faire qu'on préserve des moments de bonheur, des moments où on est en accord avec le monde, des moments que l'on veut éterniser. Alors c'est une éternité toute relative, évidemment, mais cette entreprise vaine, qui est l'entreprise des poètes, mais qui est peut-être plus généralement entreprise humaine, l'entreprise artistique en tout cas, on ne peut pas y renoncer. Et c'est peut-être cette part d'utopie qui fait que, pour moi, il n'y a pas de poésie sans sentiment à la fois du possible et de l'impossible. Pour les gens, pour le commun des mortels, les poètes sont des doux rêveurs.
Des nigauds.
Voilà, qui ont la tête un peu dans les nuages. Bon, si on veut être gentil, on dit dans les étoiles, mais sinon on dit qu'ils sont dans la lune. Hein. C'est pas complètement vrai, parce que la plupart des poètes que je connais sont des gens qui ont bien les pieds sur terre et qui sont obligés de se battre tous les jours devant les difficultés de l'existence. Ils ne vivent pas sur un nuage. Mais je pense qu'il n'y a pas de poésie sans cette part de rêve actif, hein, sans cette part, en effet, d'utopie. C'est-à-dire, il n'y a pas de poésie, et peut-être même pourrais-je être un peu plus radical et dire qu'il n'y a pas d'humanité sans cette part-là. Parce que, pour moi, l'humanité ne vit que dans le projet de l'humanité. Si on renonce à cette idée très ancienne, qui habite les religions, qui habite les philosophies, finalement, depuis l'Antiquité, d'une humanité réconciliée avec elle-même et avec la nature, c'est finalement à l'humanité elle-même que l'on renonce. Et donc on accepte d'ouvrir la porte à la barbarie, ce que nous voyons dans les temps que nous vivons.
Oui, je suis très sensible à ce que vous dites, Francis, et à ce que tu as cité, Paul, de cet ouvrage de Francis, Cévennes. Francis est un ruisseau qui saute les barrages. Ces barrages du monde de l'argent, de l'idolâtrie, du pouvoir, c'est peut-être une façon d'être poète, de se faire poète tout entier, comme Aragon dont vous parliez tout à l'heure. Et c'est aussi la manière de dire en poésie. Il y a comme une attitude, un être poète, au sens où, quand j'écris de la poésie, c'est pas un acte volontaire, ni rationnel, ni intellectuel. C'est un être au monde qui rejoint les profondeurs, c'est-à-dire cette herbe qui envahit tout, qui finit par triompher, comme cette eau qui érode la pierre la plus dure. C'est cette eau qui environne aussi le Chili, dont vous parliez, et que met en lumière dans un très beau film Patricio Guzmán, Le bouton de nacre. C'est un film très poétique sur la question justement politique de l'engagement et de l'exigence de la beauté dont vous parliez tout à l'heure pour le peuple. Et c'est tellement important quand on est engagé en vérité dans un parti, dans une religion, d'avoir conscience de l'autre personne, de cette humanité. Et de ne pas transformer quelque chose en idéologie, justement, en un terrain de pouvoir pour soi, mais en une donation. Et je trouve que, par rapport à ce que vous aviez commencé par dire, Francis, sur le fait d'être souverain, la souveraineté. Moi, je dirais que cette souveraineté, on ne l'est jamais quand on ne l'est plus, d'une certaine manière. Parce que, je sais pas, mais oui, l'autonomie des Lumières, d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire au juste, cette autonomie, dès lors que, quand je suis en rapport à l'autre de moi et à l'altérité de l'autre personne, finalement, je suis démunie. Il y a quelque chose comme d'une pauvreté, d'une nudité qui se retrouve quand on est dans cette attitude poétique. Quand on est amoureux, on n'est plus soi d'une certaine manière.
Oui, bien sûr. C'est une aliénation volontaire, consentie et heureuse, d'une certaine façon. J'ai écrit un livre, qui est l'un de mes derniers livres, qui s'intitule « Jardin public pour une morale du bonheur commun ». C'est un livre que j'ai écrit pendant la période du confinement, qui a été publié aux éditions Delga, et qui est un livre étrange parce que sur les pages de gauche, il y a des réflexions de caractère, disons, philosophique, pour utiliser un grand mot, théorique. Et sur les pages de droite, ce sont des poèmes, et qui réfléchissent à ces questions. Et dedans, je discute justement de l'idée de Roger Vaillant, de la souveraineté, parce qu'elle a quelque chose de très séduisant et de très, très important, de très nécessaire. Et en même temps, elle a des limites, et la limite, c'est l'amour. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui surpasse la souveraineté, c'est l'amour. Quand on aime, on devient dépendant des gens que l'on aime. Et c'est une sorte d'abandon de liberté joyeusement consenti, parce qu'on prend souci d'eux, on se penche sur leur situation, on s'inquiète, un rien vous apeure, vous effleure et vous retourne. Et donc c'est un apprentissage en effet qui nous montre que notre liberté n'est pas si on ne se prolonge pas aussi dans les autres. Par rapport à cette idée de l'autre, on a souvent dit que la poésie moderne commençait avec la formule de Rimbaud « Je est un autre ». Et c'est vrai que quand on regarde l'histoire de la poésie française en particulier, tout le XXe siècle, avec les surréalistes notamment, a consacré beaucoup de temps à explorer les cavernes de l'inconscient, à découvrir l'altérité qui existe en nous-mêmes, l'étrangeté. C'est les surréalistes, mais aussi bien Michaud, etc. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle modernité poétique à promouvoir, en tout cas c'est celle à laquelle j'essaye de m'attacher avec mes moyens, modestes, mais bon, qui est de dire que l'autre est aussi jeu, en fait. L'autre, c'est aussi un jeu, c'est aussi nous. C'est-à-dire qu'il faut que la poésie française réapprenne à dire nous. Elle l'a dit à certains moments, pendant la résistance que j'évoquais tout à l'heure, elle a su dire nous. Mais après, on s'est habitué à une pratique de la poésie souvent très solipsiste, parfois même réduite à une sorte de technique du langage. Presque une conception, pour être provocateur, pourrais-je dire technocratique de la poésie, technicienne de la poésie. Alors pour moi, la poésie, c'est ce qui, dans un monde très déshumanisé, où nous courons le risque d'être remplacés par des machines, de déléguer nos pouvoirs aux machines, c'est ce qui réveille en nous le sentiment de l'humanité.
Oui, et c'est ce qu'on vit dans un atelier de peintre, quand on est ensemble sur un tableau. Justement, c'est le mouvement d'une corporation. Au Moyen-Âge, on parlait des corporations, des ligues. Et ça, le jeune Marx en parle beaucoup dans La Sainte Famille, en réflexion sur la question juive. Oui. Cette société qui est partie en déliquescence avec la verticalité du pouvoir de l'État doit être retrouvée dans sa vivacité, dans sa vitalité.
Le monde moderne industriel capitaliste a poussé à un point extrême la division du travail, la division technique du travail, la division sociale du travail. Alors ça a permis de gagner en efficacité terriblement, on a transformé le monde. Et ça aboutit à l'absurde, parce que à force de diviser les activités humaines, il y a d'un côté les artistes, de l'autre côté les savants, il y a des techniciens, etc. Tout ça perd absolument son sens. Et je crois, c'est peut-être un idéal idéaliste, mais tout au départ de l'humanité, il n'y avait pas de grande différence entre le poète et le scientifique. Quand on lit Héraclite, par exemple, Démocrite, ce qu'on en garde, c'est-à-dire les quelques fragments que nous avons de leurs œuvres, ils disent des choses qui sont de l'ordre de la profération poétique, mais qui aussi expriment la vérité scientifique de leur temps. Hein. Paul Éluard rêvait de réconcilier le beau, le bien, le bon. Moi, c'est un projet poétique qui me plaît beaucoup. Je pense qu'en effet, il est indispensable pour l'humanité elle-même que l'on réussisse à retrouver les voies d'un dialogue, pour reprendre le titre de votre émission, entre la science, la poésie, la pensée conceptuelle qui est nécessaire, et cette pensée symbolique qui est le poème, qui est plus héritière des tout débuts de la pensée humaine, de la pensée qui était liée aux images que l'on pouvait se faire, aux représentations, aux sensations, etc. On a besoin de réunir l'un et l'autre. On a besoin de réunir l'émotion et l'intelligence.
Paul Dirac, le physicien, disait qu'une équation était juste quand elle était belle.
Oui, bien sûr. Alors, il y a beaucoup de scientifiques qui s'intéressent à la poésie. Et je pense que les poètes devraient s'intéresser aussi aux sciences, parce que la poésie ne se nourrit pas simplement de notre subjectivité individuelle, elle se nourrit aussi de nos connaissances sur la société, de nos connaissances sur le monde réel.
Il y a un poète que tu as connu aussi, et qui synthétise un peu ce que tu dis, entre la solidarité du nous, l'intimité amoureuse et l'émerveillement scientifique du monde, c'est Ernesto Cardenal.
Ah oui.
Aussi au Nicaragua,
oui, bien sûr.
Qui à la fois a participé à la révolution sandiniste.
C'est un poète moins connu en France que Pablo Neruda, mais c'est une des grandes figures de la poésie latino-américaine. C'était un prêtre, un moine trappiste, qui pendant la dictature de Somoza avait animé une communauté d'Indiens sur le lac de Solentinane. J'ai eu la chance de le connaître, j'ai publié deux de ses livres en France. Je l'ai rencontré plusieurs fois. C'était un homme délicieux, adorable. La dernière fois que je l'ai vu, c'était au Nicaragua, dans un festival de poésie, devant une foule de, je ne sais pas, 2000, 3000 personnes. Ce vieux monsieur, qui était un vieux religieux, avec un béret, une chasuble blanche, a fait rigoler tout le monde en lisant des épigrammes amoureuses. Hein, parce qu'il avait, dans sa jeunesse, c'était un jeune homme très amoureux, qui aimait les femmes.
Peut-être pas que dans sa jeunesse.
Mais en tout cas, ses épigrammes datent de sa jeunesse, mais ça l'a accompagné toute sa vie. Et à la fin, au soir de sa vie, il les a lus devant cette foule, et illustrant d'ailleurs qu'en effet, pour être poète, il faut être amoureux. Et il se disait à la fois marxiste et chrétien. Bon, c'est une des figures de ce qu'on a appelé la théologie de la libération. C'est un très grand poète. Et poétiquement, très différent de Neruda, parce qu'autant Neruda est très fleuri, il a un langage très imagé, où il y a des racines, on sent il y a une puissance tellurique qui monte de toute l'histoire de l'Amérique latine. Autant dans la poésie de Cardenal, c'est une poésie qui est plus de l'ordre du reportage, presque prosaïque. Il était l'animateur, avec d'autres poètes, d'un courant qu'on appelait l'extériorisme, ou la poésie conversationnelle. Donc une poésie très volontairement communicable, très, très simple dans ses énoncés, mais qui a un souffle et qui a une profondeur, une beauté.
Francis, on s'ennuie très peu avec vous, mais on n'a pas encore entendu vos textes. Et donc, si vous l'acceptez, vous allez nous lire quelques-uns de vos textes. Et je crois qu'en ce moment, vous retravaillez un peu la poésie de Brecht. Enfin, je dis un peu, mais je crois que vous êtes très investi.
Brecht est un des auteurs qui m'a le plus marqué. On a cité Apollinaire tout à l'heure, je y reviens tout le temps, parce qu'Apollinaire, lui qui était d'origine étrangère, il avait dans l'oreille toute la musique de la langue française. Donc Apollinaire m'a marqué. Maïakovski, le grand poète russe, que j'ai traduit en français, m'a aussi marqué, parce que c'est le poète de la Révolution, et qui voulait élargir la cage du cœur à la planète entière. Hein. C'était ça, son utopie poétique. Ça dépassait évidemment la Révolution russe. C'est un grand projet poétique. Bon. Et puis Brecht. Brecht, c'est pas simplement l'homme de théâtre que l'on connaît, l'antifasciste, l'intellectuel marxiste. C'est un poète qui, justement, a réconcilié la raison et l'émotion. Et c'est une poésie, la poésie de Brecht, qui fait une grande place à la pensée critique, la dialectique au sens des contradictions, un moraliste, un fabuliste. Et j'ai traduit son livre qui s'appelle « Hundertgedichte », sans poèmes, qui n'existe pas en France encore, qui est une anthologie de ses poèmes.
Et c'est un poète qui s'est aussi beaucoup intéressé à la radio, qui a écrit une petite partition pour en hommage à la radio. On va l'écouter donc chanter par mise en musique pardon par Heinz Eisler.
Besorgt vom Haus zum Schiff, vom Schiff zum Zug, dass meine Feinde weiter zu mir sprechen. An meinem Lager und zu meiner Pein, der letzten Nacht, der ersten in der Früh, von ihren Siegen und von
petite boîte, toi que je serrais pendant mon échappée, pour que tes boutons ne se cassaient pas, toi que j'ai emporté de maison en bateau et de bateau en train, pour que mes ennemis puissent continuer à me parler, à mon chevet pour ma douleur. Dernière chose le soir, première le matin, de leur victoire et de leurs soucis, promets-moi de ne pas te taire tout à coup. Poème de Brecht, écrit en 1942 à New York.
Brecht a écrit beaucoup de poèmes en exil, en effet, qui sont des poèmes qui tenaient une sorte de journal poétique de sa vie. Hein. Il y a une leçon de la poésie de Brecht, mais pas seulement de Brecht, évidemment, c'est qu'il faut qu'un poème soit vécu avant d'être écrit, d'une certaine façon. Les meilleurs poèmes ne sont pas les poèmes que l'on concocte tout seul dans son bureau. Il faut qu'ils soient, d'une certaine façon, vécus et ressentis. Hein. L'authenticité ne suffit pas à faire un bon poème. Mais s'il n'y a pas de sincérité, d'authenticité, il y a peu de chances que le poème soit bon. Il y a un grand poète de l'ex-Yougoslavie qui s'appelait Izet Sarajlilic qui dit « La poésie, c'est quand la vie rentre dans le poème ». Et je partage cette conception-là de l'écriture poétique.
Merci beaucoup. On va vous écouter pour la lecture finale de deux poèmes.
D'accord. Deux poèmes brefs, alors.
Merci.
D'accord. Tiré d'un livre qui s'intitule « Si les symptômes persistent, consultez un poète ». C'est un livre qui a été préfacé par Bernard Noël, et qui est sous-titré « Poème politique », mais les sujets sont en vérité fort variés. Je vous en lis deux. Un coquelicot. Dans la zone commerciale, parmi les voitures et les panneaux publicitaires, à cet endroit où personne ne fait attention à lui, près du trottoir, jaillissant d'une fissure dans le goudron, un coquelicot, fragile et solitaire, se tient, droit, courageux, écarlate. Comment ne pas être optimiste ? Et le tout dernier du livre s'intitule « Facile ». « Facile », c'est un titre aussi qu'a utilisé plusieurs fois Paul Éluard. Mais bon, c'est une rencontre comme ça. « Facile ». C'est assez facile, changer la nuit en jour. Le soleil fait ça tous les matins. C'est assez facile, changer la glace en eau. Quelques rayons suffisent. C'est assez facile, faire naître des fleurs au bout de nos vieilles branches. Un peu de printemps suffit. C'est assez facile, changer ce monde inégal et injuste. Il suffit pour cela d'assez peu s'unir.
Merci beaucoup Francis. Pour les quelques minutes qui restent, justement, s'unir pour changer le monde, est-ce que tu pourrais donner juste une voix pour Mimmo Lucano.
Absolument. Parmi les batailles auxquelles on a participé, parce que j'ai participé avec les amis du Merlemoqueur, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais avec Sergio Ortega, nous avions créé une association qui s'appelle le Merlemoqueur et qui réunit des poètes et des musiciens et qui est toujours active. Donc on s'est engagé dans le soutien à ce maire de Riace, village de Calabre, dans le sud de l'Italie, qui s'appelle Mimmo Lucano, qui est tombé sous le coup de la justice italienne et qui a été condamné en première instance à 13 ans et demi de prison et 500 000 euros d'amende parce qu'il avait accueilli sur son sol, dans son village, qui était un village déserté du sud de l'Italie, 200 réfugiés kurdes. Un jour, leur bateau a échoué sur la plage du village et au lieu de les rejeter à la mer, ils les ont accueillis, ils les ont logés dans les maisons vides du village et mieux encore, il s'est appuyé sur eux pour faire revivre le village, développer des activités. Au départ, tout le monde a trouvé ça très bien, le pape, etc. Tout le monde parlait du modèle de Riace. Et puis, bon, les choses ont changé en Italie. Quand le vent a tourné, on l'a accusé d'avoir utilisé les fonds publics pour cette opération tout à fait indigne de sauvetage de gens qui s'étaient échoués sur son rivage. Et donc, son procès passe actuellement en révision. On ne sait pas ce que ça va donner, donc nous sommes solidaires de Mimmo Lucano. Et tu as évoqué tout à l'heure le mouvement mondial des poètes. En effet, je m'occupe aujourd'hui, je passe beaucoup de temps à cela. C'est une organisation qu'on a créée il y a à peu près une dizaine d'années qui réunit 1500 poètes du monde entier. Et on essaye de mener des actions. Par exemple, on s'est engagé dans toute une action pour la paix contre la guerre. On a lancé l'idée d'une chaîne mondiale de poèmes pour la paix. Parce qu'on ne se résigne pas à cette perspective d'une troisième guerre mondiale. On pense qu'il faut que les poètes, et pas seulement les poètes, se lèvent pour faire entendre la voix de la raison.
Voilà. Merci Francis.
Encore
merci.
Temps, peut-être tout juste temps.
Merci infiniment Francis Combe. On vous retrouve jusqu'à demain soir au Festival de l'Autre Livre au Blanc Manteau avec tous les éditeurs indépendants.
120 éditeurs qui seront présents.
Merci infiniment et puis peut-être un futur congrès européen de la poésie. Et nous vous retrouvons au mois de, mi-novembre, le 19 novembre avec Bénédicte Ozias pour la compagnie Agite de théâtre qui est à Toulouse. Et nous vous remercions beaucoup de votre écoute.